Comment ?
Pourquoi je fais du théâtre ?
Albert Camus.
Eh bien, je me le suis souvent demandé. Et la seule réponse que j'ai pu me faire jusqu'à présent vous paraîtra sans doute d'une décourageante banalité. Tout simplement parce qu'une scène de théâtre est un des lieux du monde où je suis heureux.
Ça peut pas faire de mal.
Il me semble que je suis incapable de parler d'autre chose que de ce que j'ai éprouvé. Et même, j'irai plus loin, il y a en moi une sorte d'incapacité que je ne présente pas avec gloire, mais d'incapacité en tout cas à parler d'autre chose que de ce que j'ai longtemps éprouvé.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Dans les années 40, sur la côte algérienne, les habitants de la ville d'Oran doivent faire face à une dangereuse épidémie, maladie du corps mais aussi de l'âme. La peste devient ici le symbole de la décadence de l'humanité et permet à Camus d'approfondir sa réflexion sur l'absurde. Voici un extrait de La Peste.
Le matin du 16 avril, le docteur Bernard Rieux sortit de son cabinet et buta sur un rat mort au milieu du palier. Sur le moment, il écarta la bête sans y prendre garde et descendit l'escalier. Mais, arrivé dans la rue, la pensée lui vint que ce rat n'était pas à sa place, et il retourna sur ses pas pour avertir le concierge. Devant la réaction du vieux monsieur Michel, il sentit mieux ce que sa découverte avait d'insolite. La présence de ce rat mort lui avait paru seulement bizarre, tandis que pour le concierge, elle constituait un scandale. La position de ce dernier était d'ailleurs catégorique. Il n'y avait pas de rat dans la maison. Le docteur eut beau l'assurer qu'il y en avait un sur le palier du premier étage, et probablement mort, la conviction de M. Michel restait entière. Bref, il s'agissait d'une farce. Le soir même, Bernard Rieux cherchait ses clés avant de monter chez lui, lorsqu'il vit surgir du fond obscur du corridor un gros rat, à la démarche incertaine et au pelage mouillé. La bête s'arrêta, sembla chercher un équilibre, prit sa course vers le docteur, s'arrêta encore, tourna sur elle-même avec un petit cri et tomba enfin en rejetant du sang par les babines entrouvertes. Dans les jours qui suivirent, la situation s'aggrava. Le nombre des rongeurs ramassés allait croissant et la récolte était tous les matins plus abondante. Dès le quatrième jour, les rats commencèrent à sortir pour mourir en groupe. Des réduits, des sous-sols, des caves, des égouts, ils montaient en longues files titubantes pour venir vaciller à la lumière, tourner sur eux-mêmes et mourir près des humains. Le 28 avril, on annonçait une collecte de 8000 rats environ, et l'anxiété était à son comble dans la ville. Puis vint la mort du concierge qui, il est possible de le dire, marqua la fin de cette période remplie de signes déconcertants et le début d'une autre, relativement plus difficile, où la surprise des premiers temps se transforma peu à peu en panique. Nos concitoyens, ils s'en rendaient compte désormais, n'avaient jamais pensé que notre petite ville pût être un lieu particulièrement désigné pour que les rats y meurent au soleil et que les concierges y périssent de maladies bizarres. En quelques jours à peine, les cas mortels se multiplièrent et il devint évident pour ceux qui se préoccupaient de ce mal curieux qu'il s'agissait d'une véritable épidémie. C'est le moment que choisit Castel, un confrère de Rieux, beaucoup plus âgé que lui, pour venir le voir.
Naturellement, lui dit-il, vous savez ce que c'est, Rieux.
J'attends le résultat des analyses.
Moi je le sais, je n'ai pas besoin d'analyse. J'ai fait une partie de ma carrière en Chine et j'ai vu quelques cas à Paris. Seulement on n'a pas osé leur donner un nom sur le moment. L'opinion publique c'est sacré, pas d'affolement, surtout pas d'affolement. Et puis comme disait un confrère, c'est impossible, tout le monde sait qu'elle a disparu de l'Occident. Oui, tout le monde le savait, sauf les morts. Allons Rieux, vous savez aussi bien que moi ce que c'est.
Rieux réfléchissait. Par la fenêtre de son bureau, il regardait l'épaule de la falaise pierreuse qui se refermait au loin sur la baie. Le ciel, quoique bleu, avait un éclat terne qui s'adoucissait à mesure que l'après-midi avançait. « Oui, Castel, » dit Rieux, « c'est à peine croyable. Mais il semble bien que ce soit la peste. »
Monsieur Albert Camus, je crois que l'on peut dire que le thème principal de votre œuvre est celui de la liberté. Je voudrais que vous me donniez la définition de ce mot si galvaudé et auquel vous avez rendu à la fois sa grandeur et son âpreté première, peut-être d'ailleurs parce que vous avez su lui garder une intangible humanité.
La liberté est pour moi le droit de ne pas mentir. C'est la définition la plus actuelle que je connaisse à ce mot.
Bonjour et bienvenue à « Ça peut pas faire de mal » consacré donc encore une fois à Albert Camus et toujours en compagnie de ce prince merveilleux qu'est Reda Kateb. Merci Reda d'être là.
Merci à vous.
Aujourd'hui, pour débuter cette seconde émission consacrée à Albert Camus, voici un extrait de « L'état de siège », une pièce méconnue de l'auteur qui s'inspire du roman publié un an plus tôt.
Moi, je rêve, c'est un fait, c'est donc un droit.
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Camus dénonce, par l'absurde, la terreur des régimes totalitaires.
Mais c'est un droit qu'on ne discute pas.
Dans cette pièce, la peste est une personnification du nazisme transposée dans l'Espagne de Franco. La pièce montée au Théâtre Marigny en 1948 est un échec auprès du public. Plus tard, Albert Camus déclare « L'état de siège n'est d'aucune manière une adaptation de mon roman, la peste. Il y a peu de pièces qui aient bénéficié d'un éreintement aussi complet par la critique. » Ce résultat est d'autant plus regrettable que je n'ai jamais cessé de considérer que l'état de siège, avec tous ses défauts, est peut-être celui de mes écrits qui me ressemble le plus. Dans cet extrait, la peste vient de prendre le pouvoir et expose sa théorie de l'organisation de la mort, parodie des camps de concentration nazis. La peste. Moi je règne, c'est un fait. C'est donc un droit. Mais c'est un droit qu'on ne discute pas. Vous devez vous adapter. L'état de siège est proclamé. J'apporte l'organisation. Et pour illustrer cette belle pensée, je commence par séparer les hommes des femmes. Ceci aura force de loi. Vos singeries ont fait leur temps. Il s'agit maintenant d'être sérieux. Je suppose que vous m'avez déjà compris. À partir d'aujourd'hui, vous allez apprendre à mourir dans l'ordre. Jusqu'ici, vous mouriez à l'espagnol, un peu au hasard, au jugé, pour ainsi dire. Oui, vous mouriez mal. Un mort par-ci, un mort par-là, celui-ci dans son lit, celui-là dans l'arène, c'était du libertinage. Mais heureusement, ce désordre va être administré. Une seule mort pour tous, et selon le bel ordre d'une liste. Vous aurez vos fiches. Vous ne mourrez plus par caprice. Le destin, désormais, s'est assagi. Il a pris ses bureaux. Vous serez dans la statistique et vous allez enfin servir à quelque chose. Parce que j'oubliais de vous le dire, vous mourrez, c'est entendu, mais vous serez incinéré ensuite. Ou même avant, c'est plus propre et ça fait partie du plan. Espagne d'abord. Se mettre en rang pour bien mourir, voilà donc le principal. À partir d'aujourd'hui, vous serez donc raisonnable. C'est-à-dire que vous aurez votre insigne. Marqué aux aînes, vous porterez publiquement, sous les selles, l'étoile du bubon qui vous désignera pour être frappé. Les autres, ceux qui, persuadés que ça ne les concerne pas, font la queue aux arènes du dimanche, s'écarteront de vous, qui serez suspect. Mais n'ayez aucune amertume, ça les concerne. Ils sont sur la liste, et je n'oublie personne. Tous suspects. C'est le bon commencement. Résumons-nous seulement. Je vous apporte le silence, l'ordre et l'absolue justice. Je ne vous demande pas de m'en remercier, mais j'exige votre collaboration active. Mon ministère est commencé. Reconnaissez votre vrai souverain et apprenez la peur. Auparavant, vous prétendiez craindre Dieu et ses hasards. Moi, j'ai choisi la domination. Vous savez maintenant que c'est plus sérieux que l'enfer. Depuis des millénaires, j'ai couvert de charniers vos villes et vos champs. Aujourd'hui, la technique est au point. Voilà pourquoi, après avoir tué ou avili la quantité d'hommes qu'il fallait, nous mettrons des peuples entiers à genoux. Aucune beauté, aucune grandeur ne nous résistera. Nous triompherons de tous. «
C'est à Alger en 1936 que le jeune Camus découvre le théâtre. Comédien, metteur en scène, chef de troupe, il fonde dans un dancing populaire le théâtre de l'Équipe, compagnie avec laquelle il monte de nombreux classiques, d'Eschyle à Dostoïevski, ainsi que des auteurs contemporains, Claudel et Malraux. Acteur confirmé, capable de remplacer un comédien au pied levé, il joue lui-même dans l'Avare de Molière et dans le Don Juan de Pouchkine, en tournée dans toute l'Algérie. À propos de Don Juan, un texte, le donjuanisme.
S'il suffisait d'aimer, les choses seraient trop simples. Plus on aime, et plus l'absurde se consolide. Ce n'est point par manque d'amour que Don Juan va de femme en femme. Il est ridicule de le représenter comme un illuminé en quête de l'amour total. Mais c'est bien parce qu'il les aime avec un égal emportement, et chaque fois avec tout lui-même, qu'il faut répéter ce don et cet approfondissement. De là que chacune espère lui apporter ce que personne ne lui a jamais donné. Chaque fois, elles se trompent profondément et réussissent seulement à lui faire sentir le besoin de cette répétition. « Enfin, s'écrie l'une d'elles, je t'ai donné l'amour. S'étonnera-t-on que Don Juan en rit ?»« Enfin, non, dit-il, mais une fois de plus. Pourquoi faudrait-il aimer rarement pour aimer beaucoup ?»
Sur un tract du théâtre de l'Équipe, Camus défend un théâtre populaire et révolutionnaire. Je cite « Il s'agit de prendre conscience de la valeur artistique propre à toute littérature de masse et de démontrer que l'art peut sortir de sa tour d'ivoire, car le sens de la beauté est inséparable d'un certain sens de l'humanité. » À cette époque, il revendique l'héritage de Copeau, fondateur du théâtre du Vieux-Colombier à Paris, à qui il emprunte cette formule « Le théâtre est la forme supérieure de la littérature. Jacopo a beaucoup agacé ses contemporains, dit-il, mais je ne suis pas sûr qu'il n'agacerait pas encore plus aujourd'hui. Il considérait l'œuvre dramatique comme un fait de culture et de culture universelle où tous les hommes pouvaient se retrouver. Il savait que la culture est toujours menacée, et plus encore au théâtre qu'ailleurs, par l'argent, la veulerie, la haine, la politique, par les intérêts financiers ou idéologiques, et qu'il convenait d'être intransigeant sur ce point. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il a fait par la vertu d'intransigeance. Cela se résume d'ailleurs brièvement. Dans l'histoire du théâtre français, il y a deux périodes, avant Copeau et après Copeau.
Je me sens tout à fait opposé, je dirais même opposé à 100%, aux nouvelles théories de la distanciation du théâtre critique, qui est en réalité le théâtre de patronage politique ou autre. Et je crois à ce que j'appelle le théâtre de participation, c'est-à-dire le théâtre d'émotion. Si cette émotion dramatique force le spectateur à se poser lui-même les problèmes que se pose le personnage qui est devant lui, et s'il y est forcé par les seuls moyens de l'émotion dramatique, alors je trouve que le théâtre remporte une partie et justifie sa fonction à la fois sociale et purificatrice aussi, comme on disait dans l'Antiquité.
Voici la leçon que Camus tire de sa pratique de la scène. L'expérience des planches m'a appris d'abord qu'il y avait, comme on dit, des lois au théâtre, et ensuite que ces lois sont faites pour être violées. Je mets au défi ceux qui parlent toujours de ces lois de les définir. S'ils y arrivent, nous nous apercevrons que ni les tragiques grecs, ni Shakespeare, ni Molière n'en ont tenu compte. En 1942, dans son essai sur l'absurde « Le mythe de Sisyphe », Albert Camus rend hommage à l'acteur. L'acteur règne dans le périssable. De toutes les gloires, la sienne est la plus éphémère et la moins trompeuse. Car elle est ce qui se vit, qui se consacre et qui s'éprouve. De ce que tout doivent un jour mourir, c'est lui qui tire la meilleure conclusion. L'acteur a 3 heures pour être Iago ou Alceste, Phèdre ou Gloste. Dans ce court passage, il les fait naître et mourir sur 50 mètres carrés de planche. Ces vies merveilleuses, ces destins uniques et complets qui croissent et s'achèvent entre les murs et pour quelques heures, jamais l'absurde n'a été si bien ni si longtemps illustré. À parcourir ainsi les siècles et les esprits, à mimer l'homme tel qu'il peut être et tel qu'il est, l'acteur rejoint cet autre personnage absurde qu'est le voyageur. comme lui. Il épuise quelque chose et parcourt sans arrêt. Il est le voyageur du temps, et pour les meilleurs, le voyageur traqué des âmes. Car c'est son art, cela, de feindre absolument, d'entrer le plus avant possible dans des vies qui ne sont pas les siennes. Au terme de son effort, sa vocation s'éclaire, s'appliquer de tout son cœur à n'être rien ou à être plusieurs. Cela s'appelle se perdre pour se retrouver. Dans ces 3 heures, il va jusqu'au bout du chemin sans issue que l'homme du parterre met toute sa vie à parcourir. Il suffit d'un peu d'imagination pour sentir alors ce que signifie un destin d'acteur. Plus il a vécu de vies différentes, et mieux il se sépare d'elles, car le temps vient où il faut mourir à la scène et au monde. Sa fascination pour le comédien l'accompagnera toute sa vie. Il confiera « Il me semble que j'aurais pu être acteur et me suffire de ce métier. Aujourd'hui encore, voir un acteur entrer dans son rôle, l'habiter, l'entendre parler de la voix même qu'on avait entendue dans le silence et la solitude, c'est la plus grande joie qu'on puisse rencontrer dans ce métier. »
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal.
Il en a vu ce vieux théâtre, avec ses vieux fauteuils qui grincent. Il en a vu ce vieux théâtre, des maharajas, des rois, des princes. Il en a vu des regards tristes, de la corbeille au poulailler, des mots blasés de journalistes et des sourires émerveillés. Il en a vu des Cyrano aller se battre sans armée et recevoir tant de bravos qu'ils en ont fait craquer ses murs. Mais c'est peut-être le fantôme qui fait grincer le bois des plaintes quand il revient de son royaume pour jouer devant la salle éteinte. Mais c'est peut-être le fantôme qui fait grincer le bois des plaintes quand il revient de son royaume pour jouer devant la salle éteinte.
Camus adapte de grands auteurs classiques et contemporains, Calderon, Dostoïevski, Buzzati, Faulkner. Mais avant d'aborder ce répertoire, il adapte une pièce française, méconnue, Les Esprits, de Pierre de Larivet, un texte datant du XVIIe siècle qui a inspiré l'avare de Molière. Voici la version de Camus du célèbre monologue de l'avaricieux lorsqu'il se découvre dépouillé de sa précieuse cassette.
Mon Dieu, qu'il me tardait d'être débarrassé de celui-là afin de reprendre ma bourse, puisque personne ne me regarde. Oh, m'amour, t'es-tu bien porté? Jésus, qu'elle est légère! Vierge Marie, qu'est-ce qu'on a mis dedans? Hélas, je suis détruit, je suis perdu, je suis ruiné. Ô voleur, ô larron, prenez-le, arrêtez tout ce qui passe, fermez les portes et les fenêtres. Misérable que je suis, où cours-je? À qui le dis-je? Je ne sais où je suis, ce que je fais, où je vais. Hélas, mes amis, je me recommande à vous tous, secourez-moi, je vous en prie. Je suis mort, je suis perdu. Dites-moi qui m'a dérobé mon âme, ma vie, mon cœur et toute mon espérance. Que n'ai-je une corde pour me pendre? J'aime mieux mourir que de vivre sans elle. Hélas, elle est toute vide. Mon Dieu, quel est ce barbare qui tout d'un coup m'a ravi mes biens, mon honneur et ma vie? Ah, chétif que je suis, que ce jour est noir et que cette heure est misérable, pourquoi vivrais-je maintenant que j'ai perdu mes chers écus, que j'avais si soigneusement amassés et que j'aimais plus que mes propres yeux? Mes écus que j'avais épargnés en me retirant le pain de la bouche, en ne mangeant jamais à ma faim? mes écus. »
Interrompu par la Seconde Guerre mondiale, Camus ne reprendra son activité théâtrale qu'après-guerre à Paris, où il crée ses pièces les plus célèbres, Caligula, Les Justes, avec de grands interprètes, Gérard Philippe, Jean-Louis Barrault, ainsi que de jeunes débutants prometteurs, Michel Bouquet, Pierre Bertin, Serge Reggiani. En 1960, Michel Bouquet parle de Camus, metteur en scène. Il cherche l'homme sous l'acteur. L'être humain le sollicite constamment, et c'est chez l'acteur que la personnalité humaine peut se déployer le plus profondément. Dès mon premier contact avec lui, j'ai compris qu'un homme exigeait de moi d'être un homme.
Michel Bouquet.
Tout le sens du message de Camus, c'est véritablement se révolter à l'intérieur pour devenir plus humain et ne pas tomber dans le panneau de la révolte pour une idéologie quelle qu'elle soit, mais au contraire pour se construire à l'intérieur de façon à mieux comprendre ou mieux sentir les autres.
La radiodiffusion télévision française présente Lectures à une voix. Aujourd'hui, lecture de Caligula par Albert Camus.
Voici justement deux extraits de Caligula. Pour commencer, un extrait de la fin de l'acte 2, la scène avec le jeune Scipion. Ah, c'est toi. Il y a longtemps que je ne t'ai vu. Qu'est-ce que tu fais? Tu écris toujours? Est-ce que tu peux me montrer tes dernières pièces?
J'ai écrit des poèmes, César.
Sur quoi?
Je ne sais pas, César. Sur la nature, je crois.
Beau sujet et vaste. Qu'est-ce qu'elle t'a fait, la nature?
Elle me console de n'être pas César.
Ah, et crois-tu qu'elle pourrait me consoler de l'être?
Ma foi, elle a guéri des blessures plus graves.
Blessures? Tu dis cela avec méchanceté. Est-ce parce que j'ai tué ton père? Si tu savais pourtant comme le mot est juste, blessure. Il n'y a que la haine pour rendre les gens intelligents.
J'ai répondu à ta question sur la nature.
Récite-moi ton poème.
Je t'en prie, César, non.
Pourquoi?
Je ne l'ai pas sur moi.
Ne t'en souviens-tu pas?
Non.
Dis-moi du moins ce qu'il contient.
J'y parlais...
Eh bien?
Non, je sais pas.
Essaye.
J'y parlais d'un certain accord de la terre.
De la terre et du pied?
Oui, c'est à peu près cela.
Continue.
Et aussi de la ligne des collines romaines et de cet apaisement fugitif et bouleversant qui ramène le soir.
Du cri des marinets dans le ciel vert.
Oui, encore.
Eh bien.
Et de cette minute subtile où le ciel encore plein d'or brusquement bascule et nous montre en un instant son autre face, gorgée d'étoiles luisantes.
De cette odeur de fumée, d'arbres et d'eau qui monte alors de la terre vers la nuit.
Le cri des cigales et la retombée des chaleurs, les chiens, les roulements des derniers chars, les voix des fermiers.
Et les chemins noyés d'ombre dans les lentisques et les oliviers.
Oui, oui, c'est tout cela. Mais comment l'as-tu appris?
Je ne sais pas. Peut-être parce que nous aimons les mêmes vérités.
Ah, qu'importe, puisque tout prend en moi le visage de l'amour.
C'est la vertu des grands cœurs, Scipion. Si du moins je pouvais connaître ta transparence. Mais je sais trop la force de ma passion pour la vie, elle ne se satisfera pas de la nature. Tu ne peux pas comprendre cela. Tu es d'un autre monde. Tu es pur dans le bien comme je suis pur dans le mal.
Je peux comprendre.
Non. Ce quelque chose en moi, ce lac de silence, ces herbes pourries. Ton poème doit être beau. Mais si tu veux mon avis...
Oui.
Tout cela manque de sang.
Oh, le monstre. L'infect monstre. Tu as encore joué. Tu viens de jouer, hein? Et tu es content de toi?
Il y a du vrai dans ce que tu dis. J'ai joué.
Quel cœur ignoble et ensanglanté tu dois avoir. Oh, comme tant de mal et de haine doivent te torturer.
Tais-toi maintenant.
Comme je te plains et comme je te hais.
Tais-toi.
Et quelle immonde solitude doit être la tienne?
La solitude? Tu la connais, toi, la solitude? Celle des poètes et des impuissants? La solitude? Mais laquelle? Ah, tu ne sais pas que seul, on ne l'est jamais. Et que partout, le même poids d'avenir et de passé nous accompagne. Les êtres qu'on a tués sont avec nous. Et pour cela, ce serait encore facile. Mais ceux qu'on a aimés, ceux qu'on n'a pas aimés,
et qui vous ont aimé. Les regrets, le désir, l'amertume et la douceur, les putains et la clique des dieux. Seul, hein. Si du moins au lieu de cette solitude empoisonnée de présence qui est la mienne, je pouvais goûter la vraie, le silence et le tremblement d'un arbre. La solitude, mais non, Scipion, elle est peuplée de grincements de dents et tout entière retentissant de bruits et de clameurs perdues. Et près des femmes que je caresse quand la nuit se referme sur nous et que je crois éloignée de ma chair, enfin contentée, saisir un peu de moi entre la vie et la mort, ma solitude entière s'emplit de l'aigre odeur du plaisir aux aisselles de la femme qui sombre encore à mes côtés.
Tous les hommes ont une douceur dans la vie. Cela les aide à continuer. C'est vers elle qu'ils se retournent quand ils se sentent trop usés.
C'est vrai, Scipion.
N'y a-t-il donc rien dans la tienne qui soit semblable? L'approche des larmes? Un refuge silencieux?
Si, pourtant.
Et quoi donc?
Le mépris. Et maintenant à l'acte 3, cette scène avec Hélicon. Hélicon.
Qu'y a-t-il?
Ton travail avance.
Quel travail?
Eh bien, la lune.
Ça progresse. C'est une question de patience, mais je voudrais te parler.
J'aurais peut-être de la patience, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Il faut faire vite, Hélicon.
Je te l'ai dit, je ferai pour le mieux. Mais auparavant, j'ai des choses graves à t'apprendre.
Remarque que je l'ai déjà eue.
Qui?
La lune.
Oui, naturellement. Mais sais-tu que l'on complote contre ta vie?
Je l'ai eu tout à fait, même. Deux ou trois fois seulement, il est vrai, mais tout de même, je l'ai eu.
Voilà bien longtemps que j'essaye de te parler.
C'était l'été dernier. Depuis le temps que je la regardais et que je la caressais sur les colonnes du jardin, elle avait fini par comprendre.
Cessons ce jeu, Caius. Si tu ne veux pas m'écouter, mon rôle est de parler quand même. Tant pis si tu n'entends pas.
Ce vernis ne vaut rien. Mais pour en revenir à la lune, c'était pendant une belle nuit d'août. Elle a fait quelques façons. J'étais déjà couché. Elle était d'abord toute sanglante au-dessus de l'horizon. Puis elle a commencé à monter de plus en plus légère, avec une rapidité croissante. Plus elle montait, plus elle devenait claire. Elle est devenue comme un lac d'eau laiteuse au milieu de cette nuit pleine de froissements d'étoiles. Elle est arrivée alors, dans la chaleur, douce, légère et nue. Elle a franchi le seuil de la chambre, et avec sa lenteur sûre, est arrivée jusqu'à mon lit. S'y est coulée, et m'a inondé de ses sourires et de son éclat. Décidément, ce vernis ne vaut rien. Mais tu vois, Hélicon, je puis dire sans me vanter que je l'ai eu.
Veux-tu m'écouter et connaître ce qui te menace?
Je veux seulement la lune, Hélicon. Je sais d'avance ce qui me tuera. Je n'ai pas encore épuisé tout ce qui peut me faire vivre. C'est pourquoi je veux la lune. Et tu ne reparaîtras pas ici avant de me l'avoir procurée.
Alors je ferai mon devoir et je dirai ce que j'ai à dire. Un complot s'est formé contre toi. Kerea en est le chef. J'ai surpris cette tablette qui peut t'apprendre l'essentiel. Je la dépose ici.
Où vas-tu, Hélicon?
Te chercher la lune.
J'avoue que je ne sais pas ce qu'est une pièce philosophique. Pour peu que vous vous éleviez un peu au-dessus du lit aujourd'hui, on crie à la métaphysique. Mais je vous proposerai seulement trois sujets de méditation. Premièrement, il n'y a pas plus d'idées générales et plutôt moins dans le théâtre contemporain que dans Eschyle ou dans Shakespeare. Deuxièmement, s'il m'est arrivé d'entendre parfois des cours de philosophie au théâtre, c'est presque toujours sur les scènes de nos boulevards. Et troisièmement, on confond trop souvent le théâtre écrit et le théâtre d'idées. Si vous n'écrivez pas le mélange d'argot et d'onomatopée qui fait le fond des conversations parisiennes, si vous vous efforcez seulement d'écrire correctement, alors vous êtes un penseur. Qu'importe d'ailleurs, il reste qu'il n'y a pas de théâtre sans grand langage et que ce but idéal est celui vers lequel nous devons tendre.
Voici quelques réflexions et confidences au fil des carnets d'Albert Camus. Ces carnets écrits entre janvier 1942 et mars 1951. Camus tient ses premiers carnets à 20 ans. Il y note ses projets, des citations extraites de ses lectures ou même des réflexions personnelles. Aujourd'hui, il constitue un document unique sur l'itinéraire intellectuel de l'écrivain. En voici quelques extraits. Question à poser.
Aimez-vous les idées, avec passion, avec le sang? Faites-vous une insomnie de cette idée? Sentez-vous que vous jouez votre vie sur elle? Que de penseurs reculeraient.
Avoir la force de choisir ce qu'on préfère et s'y tenir. Ou sinon, il vaut mieux mourir.
Le devoir, c'est de faire ce qu'on sait être juste et bon, préférable. Cela est facile? Non. Car même ce qu'on sait être préférable, on le fait difficilement.
Naturellement, ce qui m'intéresse, moi, ce n'est pas tant d'être le meilleur, c'est d'être accepté.
Que vaut l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Toute ma vie, il me restera, après ce que j'ai vu, une méfiance et une inquiétude fondamentale à son égard.
Le grand problème de la vie, c'est de savoir comment passer entre les hommes.
Vivre, c'est vérifier.
La grandeur, c'est d'essayer d'être grand.
Vieillir, c'est de passer de la passion à la compassion.
Il faut être pessimiste en ce qui concerne la condition humaine, mais optimiste en ce qui concerne l'homme.
Il n'y a pas de liberté pour l'homme tant qu'il n'a pas surmonté sa crainte de la mort. Mais non par le suicide. Pour surmonter, il ne faut pas s'abandonner. Pouvoir mourir en face, sans amertume. Voici maintenant une réflexion politique.
Le Français a gardé l'habitude et les traditions de la Révolution. Il ne lui manque que l'estomac. Il est devenu fonctionnaire, petit bourgeois et midinette. Le coup de génie est d'en avoir fait un révolutionnaire légal. Il conspire avec l'autorisation officielle. Il refait un monde sans lever le cul de son fauteuil.
Et maintenant des réflexions sur la littérature. Littérature, se méfier de ce mot. Ne pas le prononcer trop vite.
Un écrivain ne doit pas parler de ses doutes en face de sa création. Il serait trop facile de lui répondre « Qui vous force à créer ? Si c'est une angoisse si continue, pourquoi la supportez-vous » Les doutes, c'est ce que nous avons de plus intime. Ne jamais parler de ces doutes, quels qu'ils soient.
La première chose à apprendre pour un écrivain, c'est l'art de transposer ce qu'il sent dans ce qu'il veut faire sentir. Les premières fois, c'est par hasard qu'il réussit. Mais ensuite, il faut que le talent vienne remplacer le hasard. Il y a ainsi une part de chance à la racine du génie.
Pourquoi es-tu triste ?
Maria Cazares et Serge Reggiani jouent les justes d'Albert Camus.
Il y a deux jours, ton visage resplendissait, tu semblais marcher vers une grande fête. Aujourd'hui,
je sais ce que je ne savais pas. Tu avais raison, ce n'est pas si simple. Je croyais que c'était facile de tuer, que l'idée suffisait, le courage. Mais je ne suis pas si grand et je sais maintenant qu'il n'y a pas de bonheur dans la haine.
La dernière pièce de Camus, Les Justes. Après l'échec de l'état de siège en 1948, Camus écrit cette quatrième et dernière pièce qui traite d'un événement historique, l'assassinat du grand-duc Serge en Russie en 1905 par un groupe de révolutionnaires socialistes. Le propos de Camus est de dénoncer le terrorisme. Je cite « J'ai seulement voulu montrer que l'action politique avait ses limites. Notre monde nous montre aujourd'hui une face répugnante, justement parce qu'il est fabriqué par des hommes qui s'accordent le droit de franchir ses limites et d'abord de tuer les autres sans mourir eux-mêmes. C'est ainsi que la justice aujourd'hui sert d'alibi, partout dans le monde, aux assassins de toute justice. » Au début de l'acte 2, Kaliaïev, qui avait été désigné pour lancer la bombe sur la calèche du grand-duc, est de retour de mission. Malgré son engagement pour la cause, il avoue avoir voulu épargner des enfants innocents.
Je ne pouvais pas prévoir.
Des enfants surtout. As-tu regardé des enfants? Ce regard grave qu'ils ont parfois? Je n'ai jamais pu soutenir ce regard. Une seconde auparavant, pourtant, dans l'ombre, au coin de la petite place, j'étais heureux. Quand les lanternes de la calèche ont commencé à briller au loin, mon cœur s'est mis à battre de joie, je le jure. Il battait de plus en plus fort à mesure que le roulement de la calèche grandissait. Il faisait tant de bruit en moi. J'avais envie de bondir. Je crois que je riais et je disais « Oui, oui, tu comprends ?» J'ai couru vers elles. C'est à ce moment que je les ai vues. Ils ne riaient pas, eux. Ils se tenaient tout droit et regardaient dans le vide. Comme ils avaient l'air tristes. Perdus dans leurs habits de parade, les mains sur les cuisses, le buste raide de chaque côté de la portière. Je n'ai pas vu la grande duchesse, je n'ai vu qu'eux. S'ils m'avaient regardé, je crois que j'aurais lancé la bombe, pour éteindre au moins ce regard triste. Mais ils regardaient toujours devant eux. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mon bras est devenu faible, mes jambes tremblaient. Une seconde après, il était trop tard. Regardez-moi, frère. Regarde-moi, Boria. Je ne suis pas un lâche, je n'ai pas reculé. Je ne les attendais pas. Tout s'est passé trop vite. Ces deux petits visages sérieux, et dans ma main ce poids terrible, c'est sur eux qu'il fallait le lancer, ainsi, tout droit. Oh non, je n'ai pas pu. Autrefois, quand je conduisais la voiture chez nous en Ukraine, j'allais comme le vent. Je n'avais peur de rien au monde, sinon de renverser un enfant. J'imaginais le choc, cette tête frêle frappant la route à la volée. Aidez-moi. Je voulais me tuer. Je suis revenu parce que je pensais que je vous devais des comptes, que vous étiez mes seuls juges, que vous me diriez si j'avais tort ou raison, que vous ne pouviez pas vous tromper. Mais vous ne dites rien. Voilà ce que je propose. Si vous décidez qu'il faut tuer ces enfants, j'attendrai la sortie du théâtre et je lancerai seul la bombe sur la calèche. Je sais que je ne manquerai pas mon but. Décidez seulement. J'obéirai à l'organisation.
À la fin de sa vie, Camus défend l'importance de son œuvre théâtrale. Je sais qu'on considère ce secteur de mon activité comme mineur et regrettable. Ce n'est pas mon opinion. Je m'exprime là autant qu'ailleurs. Mais peut-être ne suis-je pas bon juge de moi-même.
Pour moi, le théâtre m'intéresse en tant que plateau et pour les problèmes qu'il pose et aussi pour la possibilité qu'il offre d'y faire vivre de façon plus charnelle des personnages d'imagination. Les idées dans tout ceci, pour moi, viennent au second plan. Je ne dis pas qu'elles n'ont pas d'importance, mais elles viennent certainement au second plan. Et je crains toujours qu'on néglige un petit peu, si j'ose dire, cet aspect de mon activité. Le théâtre me permet de lui donner libre cours et surtout de le développer, en somme, en action. Je veux dire de donner libre cours, à mon sens, de la composition, de l'harmonie, du rythme, des mouvements, tout problème qui se pose à un artiste et jamais à un philosophe.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Château de boîtes de conserve, ils mènent en bateau les hommes qui les servent. La mort descend d'un ciel qui mitraille et se venge, un ciel présidentiel déserté par les anges. Quand apprendre à compter ne sert qu'aux survivants, savoir combien on est et l'âge des suivants,
cette vie dont on croit ne pas devoir douter. C'est un chemin de croix, un passage clouté. Un chemin de croix, un passage clouté. Château de boîtes de conserve, au moment du gâteau, les voici qui s'énervent. Une inverse d'ogive cherche sa trajectoire, trouve le plat d'endive des mômes au réfectoire. Et la vie dont on croit ne pas devoir douter, c'est un chemin de croix, un passage clouté. Un chemin de croix, un passage clouté. Du haut de leur château, de boîtes de conserve, ils gardent leur chapeau, la mort ne les conserve que quand c'est l'un des leurs qui passe l'arme à gauche. Quand pour l'un de ces leurs d'achever la débauche. Et la vie dont on croit ne pas devoir douter, c'est un chemin de croix, un passage clouté. Un chemin de croix, un passage clouté. Cette vie dont on croit ne pas devoir douter, c'est un chemin de croix, un passage clouté. Un chemin de croix, un passage clouté.
Voici maintenant un extrait des lettres à un ami allemand. Ces lettres ont été publiées en France après la libération. Écrites dans la clandestinité, s'adressant à un ami allemand imaginaire, elles font l'apologie de la lutte contre la violence. Voici un extrait de la quatrième lettre, sûrement la plus importante de l'ouvrage, qui contient déjà les thèses de l'homme révolté. La citation mise en exergue, « L'homme est périssable, il se peut, mais périssons en résistant. Et si le néant nous est réservé, ne faisons pas que ce soit une injustice. » Obermann. Voici venir le temps de votre défaite. Je vous écris d'une ville célèbre dans l'univers et qui prépare contre vous un lendemain de liberté. Elle sait que cela n'est pas facile, et qu'il lui faut auparavant traverser une nuit encore plus obscure que celle qui commença il y a 4 ans avec votre venue. Je vous écris d'une ville privée de tout, sans lumière et sans feu, affamée, mais toujours pas réduite. Bientôt quelque chose y soufflera dont vous n'avez pas idée. J'attends et je pense à vous. J'ai encore une chose à vous dire, qui sera la dernière. Je veux vous dire comment il est possible que nous ayons été si semblables et que nous soyons aujourd'hui ennemis. Comment j'aurais pu être à vos côtés et pourquoi maintenant tout est fini entre nous. Vous n'avez jamais cru au sens de ce monde. Vous en avez tiré l'idée que tout était équivalent et que le bien et le mal se définissaient selon qu'on le voulait. Vous avez supposé qu'en l'absence de toute morale humaine ou divine, les seules valeurs étaient celles qui régissaient le monde animal, c'est-à-dire la violence et la ruse. Vous en avez conclu que l'homme n'était rien et qu'on pouvait tuer son âme, que dans la plus insensée des histoires, la tâche d'un individu ne pouvait être que l'aventure de la puissance et sa morale, le réalisme des conquêtes. Et à la vérité, moi qui croyais penser comme vous, je ne voyais guère d'arguments à vous opposer, sinon un goût violent de la justice. Car j'ai choisi la justice pour rester fidèle à la terre. Continue à croire que ce monde n'a pas de sens supérieur. Mais je sais que quelque chose en lui a du sens,
et c'est l'homme, parce qu'il est le seul être à exiger d'en avoir. Ce monde n'a pas d'autre raison que l'homme, et celui-ci qu'il faut sauver si l'on veut sauver l'idée qu'on se fait de la vie. Voilà pourquoi à la fin de ce combat, du sein de cette ville qui a pris son visage d'enfer, je puis vous dire qu'au moment même où nous allons vous détruire sans pitié, nous sommes cependant sans haine contre vous. Dans cette nuit d'Europe où courent les souffles de l'été, des millions d'hommes armés ou désarmés se préparent au combat. L'aube va poindre et vous serez enfin vaincus. Je sais que le ciel qui fut indifférent à vos atroces victoires le sera encore à votre juste défaite. Aujourd'hui encore, je n'attends rien de lui. Mais nous aurons du moins contribué à sauver la créature de la solitude où vous vouliez la mettre. Pour avoir dédaigné cette fidélité à l'homme, c'est vous qui, par milliers, allez mourir solitaire. Maintenant, je puis vous dire adieu.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission réalisée par Xavier Pestugia avec à la technique Jean-Michel Bernaud a été préparée par Estelle Gap et Laurel Maki.